En 2016, une artiste signe pour deux albums. Et 10 ans plus tard, la plus haute juridiction française décide que cet engagement n'a juridiquement jamais existé.
Ouais, et les conséquences sont vraiment lourdes.
Ah ça c'est sûr. Les sociétés d'édition se retrouvent carrément condamnées à restituer la totalité des sommes perçues sur des années d'exploitation, et tout ça à cause de l'interprétation stricte d'un seul mot dans le code de la propriété intellectuelle.
Un seul petit mot, oui.
C'est fou. Le pourvoi numéro 24-15857 qui a été jugé le 13 mai 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation redéfinit complètement la gravité de la linguistique contractuelle dans l'industrie musicale. Bienvenue dans notre analyse en profondeur. Bon, décortiquons tout ça.
La judiciaire qui a l'air très technique comme ça, se joue l'une des tensions les plus anciennes du droit des contrats.
C'est-à-dire ?
En gros, il y a d'un côté la liberté de négocier et de définir ses propres termes, et de l'autre, la nécessité vitale d'empêcher la captation intégrale du travail futur d'un créateur. C'est vraiment une affaire qui illustre la limite frontale entre le modèle économique d'une industrie et l'ordre public de protection.
Et on sait que l'industrie musicale a un lourd passif historique avec ça, hein, avec ses engagements tentaculaires qui frôlent parfois la mainmise totale sur la vie d'un créateur.
Oh que oui!
On a tous en tête l'image de Prince dans les années 90 qui décide de changer son nom pour un imprononçable love symbol et qui se balade avec le mot slave, donc esclave, écrit sur la joue.
Une image marquante.
Grave. Et son but, c'était précisément d'échapper aux griffes d'un contrat avec Warner Bros. Qui verrouillait l'intégralité de sa production. Les labels cherchent toujours à sécuriser leurs investissements sur le long terme.
Et il faut comprendre pourquoi ils font ça. Le modèle économique des sociétés d'édition et des labels repose sur une prise de risque initiale qui est massive.
Ouais, c'est pas garanti que l'artiste marche.
Exactement. Sur 10 artistes signés et développés, la réalité statistique, c'est qu'un seul génère un retour sur investissement suffisant pour couvrir les échecs des 9 autres.
Seulement 1 sur 10. C'est rude.
C'est très rude. Du coup, pour amortir ces pertes inévitables, les professionnels de la musique s'assurent de verrouiller l'artiste qui finit par percer.
Logique. D'un point de vue business.
Voilà. Et c'est la fonction première de ce qu'on appelle le pacte de préférence. C'est l'outil juridique qui se trouve au centre absolu de l'affaire de Madame Z.
Alors, le point de départ de cette affaire nous ramène au 29 février 2016. Madame Z signe plusieurs contrats avec Alterca et Almost Music.
Tout à fait.
Il y a des contrats classiques de cession et d'édition pour des œuvres qui existent déjà et une cession de droits d'adaptation audiovisuelle. Mais la pièce maîtresse de ce montage, c'est ce fameux pacte de préférence.
C'est ça.
En substance, l'éditeur lui dit « Nous investissons sur ton premier projet aujourd'hui, mais en échange, tu as l'obligation de nous proposer en priorité toutes tes futures créations. »
Il faut préciser que le principe du pacte de préférence n'est pas illégal en soi. Hein. Il est même indispensable au fonctionnement du marché, comme on le disait.
Oui, bien sûr.
Le litige, il naît vraiment de la manière dont Alterca et Almost Music ont mesuré cet engagement futur. Le contrat signé par Madame Z précisait qu'il était conclu pour la durée nécessaire à l'écriture et à la composition, je cite, « d'un album sorti dans le commerce venant à la suite de l'album 1 ».
En clair, l'engagement portait fermement sur la création d'un album 2.
Exactement.
Et le document allait plus loin en ajoutant que, par la suite, les éditeurs disposeraient d'une option exclusive pour les œuvres constituant un album 3, qui était qualifié d'album optionnel.
C'est là que ça se complique.
Si on s'arrête à cette lecture de surface, le volume de production demandé semble tout à fait standard, non? L'artiste s'engage sur 2 objets culturels, un 2e et un potentiel 3e album.
En apparence, oui. Mais l'architecture du piège contractuel réside dans la clause des définitions.
Ah, les fameuses définitions en petits caractères?
C'est une section qui est très souvent négligée lors des signatures. Les rédacteurs du contrat ont pris soin de définir juridiquement ce qu'ils entendaient par l'expression « album sorti dans le commerce ».
Et qu'est-ce que ça disait?
Le texte imposait que cet album soit, au minimum, un recueil d'au moins 10 œuvres faisant l'objet d'une sortie commerciale normale. Et là, l'unité de mesure bascule instantanément.
Waouh! On passe d'un format commercial abstrait à un volume minimal de propriété intellectuelle très concret, quoi. C'est une méthode de rédaction redoutable. C'est comme si on signait un contrat pour fournir 2 corbeilles de fruits en glissant en petits caractères qu'une corbeille doit contenir au moins 10 fruits. On ne s'engage plus sur 2 éléments, mais sur 20.
C'est une excellente analogie, c'est exactement ça. Cette redéfinition interne a complètement transformé la nature de l'obligation de Madame Z.
Oui, l'effort n'a plus rien à voir.
en lisant album 2 et album 3, l'engagement cognitif de l'artiste se fixe sur deux projets globaux. Mais par le jeu de la définition contractuelle, elle se retrouvait forcée de livrer au strict minimum 20 chansons distinctes.
20 œuvres individuelles prêtes à être commercialisées ? C'est massif.
C'est énorme. Et c'est la prise de conscience de ce volume d'engagement démesuré caché sous l'étiquette rassurante du mot « album » qui a poussé l'artiste à saisir la justice pour faire annuler ses contrats.
Ce qui amène le débat sur le terrain du code de la propriété intellectuelle, qui sert vraiment de bouclier fondamental en France. L'article L131-1 pose une règle d'or, d'une clarté absolue. C'est la prohibition de la cession globale des œuvres futures.
Oui, un principe très fort.
Il est catégoriquement interdit de signer un document affirmant que tout ce qu'on créera à l'avenir appartient d'office à une entreprise. Une telle clause est nulle d'ordre public.
Et la philosophie du droit français est très belle là-dessus. Elle considère l'œuvre comme une extension inaliénable de la personne de l'auteur.
C'est presque philosophique, oui.
Vendre son esprit par anticipation, ça s'apparente à une forme de servitude volontaire que la loi refuse tout simplement de valider. Cependant, comme on l'a évoqué tout à l'heure, l'industrie a besoin de garanties.
Il fallait bien trouver un compromis.
Exactement. Le législateur a donc aménagé une porte de sortie. Ce qui est fascinant ici, c'est l'article L132-4. Cet article autorise le pacte de préférence, mais en lui imposant un carcan extrêmement rigide.
Pour éviter les dérives.
Pour être valide, l'engagement sur les œuvres futures doit impérativement être limité. Soit il est limité dans le temps, pour une durée maximale de 5 ans, soit il est limité en quantité, pour un maximum de 5 ouvrages.
Donc le choix se résume à 5 ans ou 5 ouvrages. Or, le pacte de préférence de Madame Z ne comportait aucune limite de temps claire. Le plafond des 5 ans n'était donc pas applicable.
Tout s'est donc joué sur l'autre option.
Voilà. Tout le débat juridique, toute la défense des éditeurs s'est concentré sur ce mot précis, le mot « ouvrage ».
C'est ça. Après avoir été condamné par la Cour d'appel de Paris le 29 mars 2024, Alterca et Almos Music ont formé un pourvoi en cassation et ils l'ont fait en s'appuyant sur une logique industrielle qui, d'un point de vue purement commercial, peut sembler rationnelle.
Oui, les sociétés d'édition ont plaidé que le droit doit s'adapter à la réalité du marché qu'ils régulent.
C'était quoi leur argument exact ?
Leur argument central consistait à dire que, dans l'écosystème musical moderne, un single, donc une chanson isolée, ce n'est pas une unité d'exploitation viable pour justifier un investissement lourd.
D'accord, je vois.
L'unité de mesure commerciale standard, l'entité qui déclenche un plan marketing, une tournée, des relations presse, eh bien c'est l'album.
Quand il soutenait que lorsque la loi parle d'un ouvrage, il faut le traduire dans le langage de l'industrie musicale par un album.
Ah, habile. Selon leur lecture, un contrat portant sur un album 2 et un album 3 se résumerait à engager l'artiste sur 2 ou 3 ouvrages. Il serait donc largement en deçà de la limite légale fixée à 5 ouvrages, rendant leur contrat inattaquable. Peu importe qu'un album contienne 10 ou 15 pistes.
Il faut reconnaître que cet argument s'appuie sur une vraie réalité économique. Les labels budgétisent par projet global. Une campagne de promotion, ça ne s'amortit pas sur une seule piste.
C'est sûr que promouvoir un seul titre, c'est risqué.
Pour eux, imposer une limite de 5 chansons individuelles, ça reviendrait à détruire la rentabilité du pacte de préférence, puisqu'un artiste se retrouverait libre de partir à la concurrence avant même d'avoir terminé un seul album complet.
La logique comptable des éditeurs se défend, certes, mais ses conséquences juridiques seraient catastrophiques pour les créateurs. Si l'on accepte que l'industrie dicte la définition des termes légaux, le code de la propriété intellectuelle perd toute son efficacité.
Bien sûr.
Mais attendez, si on suit la logique des éditeurs, un auteur littéraire qui signerait pour 5 ouvrages pourrait se retrouver à devoir écrire 5 encyclopédies en 10 volumes. C'est une faille gigantesque, non ?
Et béante. Admettre le raisonnement des éditeurs musicaux reviendrait à donner aux entreprises le pouvoir de redéfinir secrètement les limites protectrices de la loi par le simple biais d'une clause de lexique en bas de contrat.
Et ça, c'est la porte ouverte à tous les abus.
C'est le cœur du problème tranché par la juridiction suprême. Est-ce que le terme « ouvrage » désigne le contenant commercial, donc l'album, ou bien le contenu matériel, c'est-à-dire l'œuvre musicale elle-même ?
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le 13 mai 2026, la Cour de cassation apporte une réponse définitive par son arrêt numéro 316-FB. Et la décision est un rejet frontal de la logique industrielle.
Totalement frontal, oui.
La Cour affirme catégoriquement qu'en matière d'édition musicale, un ouvrage, au sens de l'article L132-4, correspond spécifiquement à une œuvre musicale individuelle, et en aucun cas à un album regroupant plusieurs œuvres. La loi désigne la chanson, pas son emballage.
La Cour de cassation s'appuie ici sur la hiérarchie des normes et sur un principe fondamental de l'interprétation des lois en droit civil.
Lequel ?
Le pacte de préférence est une dérogation. C'est une exception à la règle générale qui interdit de céder ses œuvres futures. Or, en droit français, toute exception s'interprète de manière restrictive.
On ne peut pas l'étirer dans tous les sens, quoi.
Exactement. Il est impossible pour un juge d'élargir la portée d'une exception en laissant une industrie y injecter ses propres concepts commerciaux extensibles. L'ouvrage, c'est l'unité de création de l'esprit, indivisible et autonome.
Les conséquences mathématiques de cette décision sont immédiates pour le contrat de Madame Z. L'album 2 exigeait un minimum de 10 œuvres. L'album 3, optionnel, en exigeait 10 autres.
Le calcul est vite fait.
Bah oui, le contrat engageait donc l'artiste sur un minimum absolu de 20 ouvrages individuels, pulvérisant la limite légale impérative de 5 ouvrages.
Et la sanction face à cette violation de la loi est implacable. La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel, le pacte de préférence est frappé de nullité.
Aïe.
Et attention, la mécanique de la nullité en droit des contrats, c'est une véritable onde de choc financière. Il ne s'agit pas d'une simple résiliation qui mettrait fin au contrat pour l'avenir.
Ah non.
Non. La nullité opère un effacement rétroactif. La fiction juridique impose de considérer que cet accord n'a tout simplement jamais existé.
Waouh ! Ce qui signifie que les éditeurs n'ont jamais eu le moindre droit de commercialiser ces chansons, en fait.
Exactement. Zéro droit.
Donc toutes les recettes générées depuis des années, les droits d'auteur, les revenus de streaming, les ventes physiques, tout a été perçu sans aucune base légale valide.
Eh oui !
L'arrêt condamne Alterca et Almost Music à restituer à Madame Z l'intégralité des sommes perçues au titre de l'exploitation de ses œuvres.
Et la violence de cette restitution pour la comptabilité d'un label est vertigineuse.
Je n'imagine même pas le trou dans la trésorerie.
Bah, une entreprise raisonne de manière linéaire normalement. Elle encaisse des revenus, paye des impôts dessus, rémunère des distributeurs, verse des salaires et investit dans le marketing.
C'est le flux normal des affaires.
Sauf que la nullité rétroactive agit comme une machine à remonter le temps qui ignore toutes ces réalités. Les éditeurs doivent vider leur trésorerie actuelle pour rembourser les revenus bruts du passé à l'artiste.
Brut, sans déduire les frais.
Tout à fait. Tout en assumant la perte sèche de tous leurs frais de promotion et de production qui deviennent purement et simplement irrécupérables. C'est une destruction de valeur totale pour la société d'édition, sanctionnant sa tentative de contournement de la loi.
Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'à cette restitution s'ajoutent d'autres condamnations financières confirmées par l'arrêt. Les sociétés doivent verser une provision à l'artiste et assumer la totalité des dépenses, c'est-à-dire les frais de justice engagés devant les différentes juridictions.
La facture grimpe vite.
C'est clair. Enfin, la Cour de cassation ordonne aux éditeurs de payer 3000 euros à Madame Z au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. C'est un mécanisme destiné à compenser une partie des frais d'avocat que l'artiste a dû supporter pour faire valoir ses droits face à ses entreprises.
La décision souligne vraiment la prééminence absolue de l'architecture juridique protectrice de la personne sur l'ingénierie financière des contrats.
Le droit prime sur le business.
Toujours. Les montages complexes, les clauses gigognes ou une définition en cache-note pour étirer les obligations d'un créateur au-delà du raisonnable, ça ne survit pas à l'analyse stricte des magistrats. La justice rappelle que l'unité de mesure de l'effort créatif reste l'humain et refuse que le vocabulaire d'un secteur d'activité neutralise la loi de la République.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre public ? C'est un rappel à l'ordre dont la pertinence dépasse largement les murs des studios d'enregistrement, en fait.
Complètement.
La rigueur avec laquelle la Cour a disséqué les termes de ce contrat s'applique à la sphère professionnelle dans son ensemble. Face à un contrat de travail, un accord de partenariat ou un délit de prestation, la clause des définitions n'est jamais un préambule technique ennuyeux.
C'est même l'inverse.
C'est le véritable champ de bataille où se décide l'ampleur exacte des obligations. Signer un document qui évoque des missions annexes, des livrables ou des révisions sans exiger une définition mathématique et restrictive de ces termes, c'est accepter d'émettre un chèque en blanc sur son propre temps et sa propre force de travail.
Le vocabulaire est l'unique ligne de défense matérielle avant l'intervention d'un juge.
Bien dit.
Mais... Et c'est là-dessus que je voudrais conclure pour notre auditoire. Si l'arrêt de la Cour de cassation apporte une réponse ferme et rassurante en définissant l'ouvrage comme une œuvre musicale classique, eh bien il fige une photographie de l'industrie qui est déjà en train de se fissurer.
Comment ça ?
La règle des cinq œuvres a été pensée à une époque où la création était un processus artisanal. Ça exigeait des semaines de composition et d'enregistrement. Aujourd'hui, cette limite quantitative affronte des mutations technologiques qui pourraient la rendre totalement obsolète.
Ah oui, le format même de la chanson explose face aux nouveaux modes de consommation.
La définition de ce qui constitue matériellement une œuvre devient extrêmement floue. Une grande partie de la jeune génération de musiciens ne compose plus des morceaux structurés de 3 minutes, mais conçoit des boucles sonores de 15 secondes, optimisées pour la viralité algorithmique des réseaux sociaux.
Les fameux sons viraux sur TikTok ou autre.
Exactement. Si une boucle de 15 secondes est reconnue juridiquement comme un ouvrage autonome, le plafond protecteur des 5 œuvres peut être atteint par un créateur en une seule matinée de travail. Le bouclier légal se transforme en passoire.
Sans parler de l'accélération vertigineuse imposée par l'intelligence artificielle générative.
C'est le niveau au-dessus, oui.
Un artiste peut désormais fournir une piste instrumentale de base à un algorithme et générer, en quelques minutes, des dizaines de variations de remix et de déclinaisons de ce même morceau. Chacune de ces variations générées par l'IA constitue-t-elle un nouvel ouvrage au sens du code de la propriété intellectuelle ?
C'est une excellente question. Et le droit va devoir déterminer où commence et où s'arrête la substance d'une création à l'ère de la reproductibilité instantanée. Si la définition de l'ouvrage n'est pas adaptée à la réalité des contenus génératifs ou des microformats, la limite quantitative perdra son rôle de garde-fou.
Les éditeurs pourraient s'engouffrer là-dedans.
Très rapidement. Ils pourraient trouver de nouveaux biais pour exiger la livraison de centaines de variations algorithmiques sous le couvert d'un engagement légal apparemment minime. L'arrêt de 2026 a magistralement refermé la porte sur les abus liés au format de l'album physique. Mais la technologie est déjà en train de forcer la serrure des formats numériques.
On part de l'analyse d'un simple contrat de musique datant de 2016 et l'on se retrouve face à l'un des défis majeurs du droit contemporain. Comment quantifier et protéger le travail de l'esprit quand les moyens de production deviennent infinis et instantanés ? La sémantique juridique a vaincu la logique comptable des éditeurs, mais son prochain adversaire sera l'automatisation de l'art lui-même. Une réflexion vertigineuse sur les mots, la valeur et l'évolution de la création à garder en tête pour quiconque écoute lors de la prochaine lecture attentive de clauses en petits caractères.